Et le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Devant tout, pour une seule étape, la mythologie du cyclisme poussée à son paroxysme aujourd'hui sur le Tour de France. Les coureurs verront deux fois son épouvantable beauté, comme disait Madame de Sévigné. C'est une première et on comptera les survivants à l'arrivée. La peur du Delta, vaccination en hausse de 40% hier par rapport à la semaine dernière. Nous serons dans un centre temporaire de la banlieue de Lyon et avec le chef des urgences de l'hôpital Pompidou dans 20 minutes.
Oui, le professeur Philippe Juvin, on parlera politique avec lui aussi parce qu'il est conseiller politique du président du parti Les Républicains, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Dialoguez avec lui, 01 45 24 7000.
Et pas de primaire pour Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle en mode cavalier seul. Il persiste et signe quand Anne Hidalgo, à gauche, continue à tracer sa route vers une candidature. Dans ce journal aussi, que fait Twitter pour lutter contre la haine en ligne? Le réseau sommet de dévoiler ses coulisses sur ordre de la justice française. L'Angleterre en demi-finale de l'Euro ce soir contre le Danemark. Le vainqueur affrontera l'Italie, qualifiée hier soir. Et Cannes, le festival où l'histoire vraie de ce soldat japonais qui se crut en guerre jusqu'en 1974. Sujet du film d'ouverture de la sélection Un certain regard.
France Inter.
Mais qu'ont-ils fait pour mériter ça, pour qu'on leur impose un tel parcours, le Ventoux ou l'Everest des cyclistes, qu'il va falloir gravir deux fois aujourd'hui sur le Tour de France. Deux versants, petit plateau et grand pignon, et c'est le second qui sera le plus raide, celui sur lequel les cyclistes amateurs font des malaises, celui sur lequel le vent vous gifle quand la chaleur ne vous assomme pas. Une épreuve pour les surhommes, en somme. Julien Alaphilippe ne la sent pas du tout.
Je pense qu'une fois ça aurait été déjà pas mal. Je sais pas pourquoi on va le faire deux fois. Je suis jamais allé en haut en vélo. Je me suis arrêté au chalet Renard, donc ce serait une première. Une deuxième même, vu qu'on le fait deux fois. Et je pense que ça sera beaucoup trop dur pour moi, donc je vais prendre comme ça vient, vraiment. Je suis jamais allé en haut en vélo, donc je vais déjà en profiter. J'espère que ce sera pas si horrible que ça. Et puis je pense surtout à un petit peu plus tard. Voilà, les étapes qui se rapprochent d'Andorre me correspondront peut-être plus que deux fois le Mont Ventoux.
Julien Alaphilippe, 35e au classement. On verra si le premier, Tadej Pogacar, garde sa fraîcheur à toute épreuve après celle-là. Le Ventoux par deux fois. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Cette année, les organisateurs ont poussé le vice, comme si la mythologie du Ventoux n'était pas déjà assez fournie.
Oui, le Ventoux, c'est l'essence du Tour rassemblé dans ces 1910 mètres qui dominent la Provence. Le décor, une montée vers le vide à travers les vignes, puis la forêt et enfin le désert calcaire. L'exploit Poulidor, dont on croit qu'il y gagne le Tour 65. Merckx sous assistance respiratoire après sa victoire en 70. Jean-François Bernard en 1987, seul contre la montre. Le Ventoux, c'est aussi la folie du public. 300 000 personnes en 2000 pour le duel de dupes Pantani-Armstrong. Chris Froome, le maillot jaune, dépossédé de son vélo en 2016, qui poursuit à pied. À 2,5 km du sommet, la légende noire du Tour a posé sa main. La stèle de Tom Simpson rappelle la mort du champion anglais en plein effort, victime de la chaleur et des amphétamines en 1967. 10 ans plus tôt, dans ses mythologies, Roland Barthes avait pourtant prévenu « Le Ventoux, c'est un dieu du mal auquel il faut sacrifier. Il faudrait donc, pour l'aimer sans risque, suivre le conseil de Jean Giono, autre géant de Provence, et vénérer de loin, je cite, « ce divin sommet, la montagne où l'on ne va pas ». Les coureurs du Tour en sont parfaitement incapables.
Jérôme Cadet sur la route du Tour, l'étape du jour avec ses deux ascensions fait 199 km entre Sorgues et Malocène. Et l'arrivée sera jugée après 22 km de descente.
Il est 8h04, un frémissement depuis deux semaines, un bond hier dans les centres de vaccination.
40% de rendez-vous supplémentaires, sans doute l'effet Delta, ce variant qui gagne du terrain et fait redouter la quatrième vague. De quoi se décider finalement, comme lorsqu'un centre ouvre dans son quartier pour aller vers les non-vaccinés. Nouvelle stratégie à l'œuvre hier à Saint-Fond, dans la banlieue de Lyon. Reportage signé Mathilde Imberti.
Ce sont des locaux de la mairie près du marché hebdomadaire qui accueillent le centre de vaccination temporaire. Il a vu passer hier une centaine de personnes, des habitants de la commune de Saint-Fond, qui sans cela n'auraient pas fait la démarche.
Ça m'a motivée en fait, mais je voulais pas aller loin pour aller me vacciner. C'était juste à côté de chez moi, je me suis dit, c'est de l'occasion.
Ouais, j'habite à Saint-Fond, oui. J'avais pas envie, mais là, j'ai dit, il faut que j'aille. Après ce que j'entends, il y a le variant, il y a ça, j'ai dit, je veux me vacciner et on verra bien.
Allez, je vais refaire avec vous le point, d'accord ? On est bien sur la première injection.
Aller vers les personnes non vaccinées, c'est la doctrine actuellement en vigueur. En ciblant les territoires où la couverture vaccinale n'est pas satisfaisante du point de vue de l'ARS, le directeur départemental dans le Rhône, Philippe Guetta.
Il faut absolument qu'on prenne de vitesse le virus pour qu'on évite d'avoir une quatrième vague. Et si on devait avoir une diffusion du virus, notamment du variant Delta, neutraliser l'impact sur les capacités hospitalières. D'où la volonté de l'ARS d'aller au plus près des habitants, sur le marché, dans les quartiers, pour offrir une souplesse dans l'offre de vaccination.
Les opérations de ce type vont se poursuivre cet été et à la rentrée. Saint-Fond dans le Rhône, Mathilde Imberti, France Inter.
Et si les contaminations sont en hausse, 3600 cas hier, c'est 50% de plus que la semaine dernière. Le nombre de patients à l'hôpital continue à baisser.
Il est 8h06, la primaire, certainement pas.
Xavier Bertrand est candidat à la présidentielle. Un point c'est tout, il l'a répété hier soir, alors que les Républicains feront voter leurs militants au mois de septembre sur un processus de départage des candidats avec une primaire. Au bout du compte, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et à gauche, pas de primaire en vue pour l'instant, mais une candidature qui se précise jour après jour. Celle d'Anne Hidalgo, qui s'est donné l'été pour réfléchir, mais qui sillonne déjà la France. Prochain rendez-vous programmé à Villeurbanne lundi prochain, après un petit tour au pot de fin de saison des sénateurs socialistes hier. La maire de Paris qui se rapproche des élus des territoire, Laurence Perron, ça n'est évidemment pas anodin.
Jusque-là, elle n'avait fait que tremper un pied. Maintenant, elle a de l'eau jusqu'à la taille, constate ravi un proche de la maire de Paris. Tout sourire aussi, Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes. C'est la première fois qu'Anne Hidalgo, pourtant conviée tous les ans, honore de sa présence son petit pot de fin de session.
Anne Hidalgo a annoncé que la démarche présidentielle ne la laissait pas indifférente. C'est à elle de décider le moment venu. Et le moment venu, ce ne sera pas avant l'automne, disons-le très simplement, si elle y va ou pas.
Embrassade, Anne Hidalgo vient d'arriver à pied.
Je pense qu'il faut, pour porter une alternative, faire les choses sérieusement. C'est une construction qui ne peut pas être une aventure individuelle. Les aventures individuelles, elles peuvent parfois réussir, mais on voit bien qu'après, ça pose d'autres problèmes.
Le patron du PS, Olivier Faure, qui est désormais aussi de tous les déplacements importants de la maire.
Je ne veux pas moi-même brûler les étapes, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de très nombreux socialistes qui l'espèrent, qui lui font signe pour lui dire « Écoute, ce serait tellement bien que tu veuilles bien te lancer dans la campagne présidentielle. »
Prochaine étape lundi, un discours à Villeurbanne, pensé comme un saut dans le grand bain. Un 12 juillet qui rappelle le 12 juillet 2016 à la mutualité d'un certain Emmanuel Macron.
Et chez elle, à Paris, Anne Hidalgo a un sérieux problème. Il en sera question ce matin au Conseil de Paris. C'est le quartier Stalingrad qui désespère. 300 toxicomanes y errent entre deux prises de crack. Évacués la semaine dernière d'un jardin public, le jardin d'Éole, où on les avait laissés s'installer. Mais la cohabitation avec les riverains était impossible. Elle l'est toujours et cela semble insoluble, Delphine Evenou.
Ils sont une centaine à avoir simplement franchi la grille du jardin, agglutinés désormais côté rue, sur des chaises ou à même le sol, en pleine consommation ou en pleine dispute. Les riverains qui s'étaient mobilisés pour retrouver leur parc ont tout de suite déchanté.
Le parc ne s'est pas du tout été rendu, au contraire, on ne peut plus s'en approcher là maintenant.
Ils sont tous centralisés à l'entrée nord, sous nos fenêtres. Ce matin, j'ai ma voisine qui habite juste à côté, elle n'a pas pu rentrer chez elle parce qu'il y avait un toxicomane allongé devant sa porte.
C'est pire qu'avant, c'est-à-dire que ce qu'on voyait il y a 3 semaines, ça a doublé, voire triplé.
Certains habitants envisagent d'en venir aux mains, voire aux armes. De petites équipes de médiateurs et des associations passent pour tenter d'apaiser la situation. Dérisoire s'agace les riverains et une partie de l'opposition. C'est trop peu, reconnaît Anne Souiris, adjointe chargée de la santé à la mairie de Paris, qui plaide pour l'ouverture de structures spécialisées au plus vite.
Ce que nous voulons mettre en place, ce sont des lieux intégrés avec à la fois du soin, à la fois de l'hébergement et du repos et à la fois de la consommation supervisée. Actuellement, ça n'est pas permis par la loi, mais il est tout à fait possible, si l'État le souhaite, de produire un arrêté qui permettrait de le faire.
Mais la situation est aujourd'hui bloquée. À quelques mois de l'élection présidentielle, le bras de fer qui oppose Anne Hidalgo au gouvernement a une dimension bien plus large que les enjeux locaux, au prix d'un sentiment d'abandon de la part des riverains.
Delphine Evenou, traitement des eaux usées, raffinerie, production d'engrais, près 13 usines à risque pointées du doigt par le ministère de la Transition énergétique. Elles ont jusqu'à fin 2022 pour se mettre en conformité, parce que ça n'est pas le cas pour l'instant. Chez Lactalis, par exemple, 5 sites sont incriminés pour leur rejet hors normes. Dans l'affaire Troadec, verdict attendu ce soir. Le père, la mère et leurs deux enfants tués près de Nantes en 2017. Hier, l'accusation a requis le maximum, la réclusion criminelle à perpétuité contre Hubert Caouissin, accusé du quadruple meurtre, et 3 ans de prison contre son ex-compagne Lydie Troadec. Autre jugement attendu, celui de l'affaire Mila, insultée et menacée sur les réseaux sociaux, au moment où Twitter est sommé de se justifier sur sa gestion de la haine en ligne, communiqué sous 2 mois et dans le détail ses méthodes de modération des messages publiés sur ordre de la justice française hier, saisie par 6 associations qui trouvent que le réseau n'en fait pas assez et qui se réjouissent aujourd'hui d'avoir obtenu la transparence. Stéphane Lilti, avocat, représente SOS Homophobie et l'Union des étudiants juifs de France.
Par cette décision, la justice met un pied dans la porte. On va savoir désormais combien de modérateurs, combien de personnes pour réguler ce service mondial, quelles formations, sont-ils francophones ou sont-ils localisés, combien de signalements par mois, par an, par semaine, combien de dénonciations au procureur de la République, parce que vous savez que les plateformes ont l'obligation de remonter au parquet les contenus qui leur sont signalés et qui leur paraissent véritablement problématiques, et c'est pas violer un secret que de dire qu'il y en a un paquet. On va savoir précisément si Twitter fait ou pas son travail de modération. C'est quand même une entreprise multinationale, très puissante, très riche, et il sera intéressant de savoir quelle est la part de ses profits consacrés à l'épuration du réseau.
Aux Pays-Bas, qui a tenté de tuer Peter de Vries, journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, gravement blessé par balle hier soir à Amsterdam, provoquant l'émotion dans le pays jusqu'au Premier ministre qui dénonce une attaque contre la liberté de la presse.
France Inter, il est 8h11, rendre à l'Afrique ce qui lui appartient.
La Belgique va restituer les œuvres spoliées pendant la colonisation. La République démocratique du Congo va donc en récupérer des milliers. Le cadre a été fixé hier à Bruxelles et à proximité, on trouve précisément la plus grande collection d'art africain d'Europe. Reportage signé Jérémy Audouard.
Des masques, des statuettes ou encore des instruments de musique, le Musée Royal d'Afrique centrale possède une immense collection de 128 000 objets, la majorité provenant de l'ancien Congo belge. Le secrétaire d'État à la politique scientifique, Thomas Dermine, souhaite restituer les biens qui ont été spoliés.
Ça ne fait pas partie de notre patrimoine, ça ne nous appartient pas, ça appartient au peuple congolais, et c'est pour ça qu'il faut, sans plus attendre, s'engager dans des processus pour transférer la propriété.
Le gouvernement fixe donc un cadre, les œuvres acquises de manière légale peuvent rester en Belgique, celles obtenues de manière illégitime, lors d'un pillage par exemple, seront proposées à la restitution. Le directeur du musée, Guido Rissels, nous montre une statue ramenée par un commerçant belge durant la période coloniale.
Cette statue ici appartient au chef Nel Kunku. C'est une pièce dont on est 100% sûr qu'elle a été acquise par pillage ou par vol, qui est candidat pour rendre au Congo de façon juridique.
Reste aujourd'hui le plus difficile, enquêter sur la manière dont des milliers d'objets ont été acquis. Cela devrait prendre des années. Les premières œuvres devraient retrouver la République démocratique du Congo dès l'année prochaine. Tervuren, Jérémy Audouard, France Inter.
Des œuvres sur grand écran à présent au Festival de Cannes. Évidemment, après la soirée d'ouverture hier soir, ce sont les sélections parallèles qui jouent leur partition avec un film passionnant pour entrer dans un certain regard. Onoda, film français, histoire japonaise. Alexis de Meyer.
C'est une histoire incroyable et pourtant, c'est une histoire vraie. Celle d'Onoda, un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui a continué à défendre sa patrie jusqu'en 1974 parce que son supérieur avait tout simplement oublié de l'informer de la capitulation du Japon. Le réalisateur français Arthur Harari a totalement flashé sur ce personnage découvert au détour d'un roman du chilien Bolaño.
Il devait organiser la guérilla dans la jungle et tenir le plus longtemps possible et il a tenu 30 ans et qui a fini par être accueilli à la fois comme un héros au Japon à son retour et comme une figure un peu impossible à cerner entre un Don Quichotte, un Robinson et un soldat.
Le tournage entièrement en japonais a duré 3 mois dans les montagnes cambodgiennes. Onoda est un grand film de guerre tropicale qui s'inscrit humblement dans la luxuriante lignée d'Apocalypse Now, Full Metal Jacket et La Ligne Rouge. En retraçant la destinée du soldat Onoda, Arthur Harari parvient à évoquer des thèmes très actuels, comme les théories du complot ou l'emprise des gourous.
Il y a quelque chose sur l'abnégation et sur le fait de tenir une parole, mais jusqu'à l'absurde et même jusqu'à une forme de transgression morale, puisque c'est quand même quelqu'un qui, pendant 30 ans, s'est cru autorisé à tuer des gens.
Et si la sortie du film au Japon est prévue à l'automne, les spectateurs français, eux, pourront le découvrir dès le 21 juillet.
Et en compétition pour la Palme, aujourd'hui, Tout s'est bien passé de François Ozon avec André Dussolier et Sophie Marceau, et Le genou d'Aed, un film israélien de Nadav Lapid. Enfin, Forza Italia, le cri de joie des supporters de la Squadra Azzurra hier soir, l'Italie en finale. Après avoir vaincu l'Espagne au tir au but, elle connaîtra son adversaire ce soir, ou l'Angleterre ou le Danemark. Coup d'envoi à 21h à domicile pour les Anglais au stade de Wembley, où retentira cette chanson, comme à chaque compétition depuis 25 ans, Three Lions, un hymne à l'humour très anglais. Richard Place.
Cette chanson n'est évidemment pas la première en l'honneur de l'équipe nationale. David Baddiel a écrit et chanté les paroles en se démarquant des précédentes.
Elles disaient toutes « on va gagner » et nous on savait que ça n'allait pas arriver. Et donc notre chanson est vraiment mélancolique.
Ce passage raconte que l'on connaît déjà l'issue de la partie. On a déjà tous vécu ça parce que l'Angleterre va tout gâcher, tout foutre en l'air. L'Angleterre n'a rien gagné depuis la Coupe du Monde en 1966. 55 ans sans titre, des supporters qui y croient malgré les désillusions. C'est dans cet esprit que Ian Brody, le compositeur, a imaginé cette chanson.
C'est une chanson sur les rêves et les sentiments. Quand on dit
«
ça revient à la maison », ce n'est évidemment pas arrogant, c'est un appel, un souhait.
Aujourd'hui, Three Lions va se retrouver dans le top 3 de Spotify au Royaume-Uni, c'est certain. Et si l'Angleterre perd, elle disparaîtra dès demain. C'est un classique ici. Londres, Richard Place, France Inter.
En même temps, avec un hymne à la loose, ils l'auront bien cherché, les Anglais, non ?
Merci Florence Paracuelos. 8h16, Marie-Pierre Planchon, la météo.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Marie-Pierre, c'est plus calme ce matin.
Oui, de la Normandie, Nicolas Hauts-de-France, au bassin parisien, en descendant vers le massif central, vous avez pu voir le soleil se lever, comme des Alpes du Sud à la région PACA, à la Corse. En revanche, on retrouve déjà des résidus orageux d'hier du centre-est au Jura, aux Alpes et sur l'Atlantique. Le ciel devient de plus en plus menaçant, avec aussi des orages sur le bassin d'Arcachon. Et puis, du sud-ouest aux Pyrénées, le ciel est chargé, avec des pluies assez faibles, sous un mercure contrasté entre les 8 petits degrés à Aubusson, mais aussi en Haute-Vienne. Il fait 9 à Rennes, 11 à Aurillac. Vous avez 15 à Paris, Quimper ou Lyon et déjà 26 à Ajaccio.
Et de nouveaux orages cet après-midi.
Oui, avec l'activité diurne, on va retrouver 3 zones orageuses. La première sur la Bretagne, la deuxième entre les Pyrénées en remontant sur le massif central au centre où ces orages seront forts. Les averses orageuses remonteront jusqu'au bassin parisien aux Ardennes. Et puis on aura une troisième zone orageuse qui va se former de nouveau du Jura aux Alpes du Sud et des ondées qui vont même déborder sur la région PACA. Entre ces zones, eh bien le temps sera plus ou moins calme avec des éclaircies sous des températures fraîches au nord et à l'ouest. 18 à Cherbourg, 19 à Saint-Jean-de-Mont, 20 à Bordeaux comme à Deauville, il fera 21 à Lille, 22 à Paris, 24 à Bourges, 27 à Cannes, 28 à Malocène et à Montpellier, comptez 30 à Toulon et 33 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, et à tout à l'heure. Géopolitique, Pierre Aski.